Alors, nous sommes le 24 décembre 1818. On est en 2024, hein, rassurez-vous, c'est une histoire. Dans le paisible village d'Oberndorf, en Autriche. Ce hameau, qui est niché entre les montagnes enneigées et bordé par la rivière Salzach, vivait au rythme des saisons. Les lumières tremblotantes des bougies illuminaient les petites fenêtres et un silence feutré régnait, interrompu seulement par le craquement de la neige sous le pas des villageois. Dans l'église Saint-Nicolas, une situation préoccupante a occupé l'esprit du père Joseph Mort. Âgé de 26 ans, ce jeune prêtre était connu pour sa douceur et son engagement auprès des habitants. Mais ce soir-là, un problème l'a tourmenté. L'orgue de l'église était inutilisable. Les mécanismes, endommagés par l'humidité et l'usure, avaient rendu l'âme et malgré les tentatives de réparation, l'instrument est resté silencieux. Pourtant, Noël devait être une célébration joyeuse et lumineuse. La musique occupait une place centrale dans la messe de minuit, et son absence menaçait d'éteindre l'enthousiasme des fidèles. Alors, comment transmettre l'émotion de la nativité dans cet élément, sans cet élément si essentiel ? En fin d'après-midi, une lueur d'inspiration a illuminé le père Joseph. Il s'est rappelé d'un poème qu'il avait écrit 2 ans auparavant, en 1816, alors qu'il servait dans une paroisse de Mariapfarr, un autre petit village des Alpes autrichiennes. Ce poème, intitulé, alors, désolé pour les germanophones, Stille Nacht, Stille, c'est ça, Stille Nacht, Heilige Nacht. Je m'essaye, hein. J'ai jamais fait d'allemand. Douce nuit, sainte nuit. Ce poème évoquait la paix et la sérénité de la nuit où le Christ est né. Le texte, qui est profondément spirituel, semblait être une réponse à l'urgence de la situation. Mais ce n'était qu'un texte. Il lui fallait une mélodie. Joseph s'est précipité chez son ami Franz Xaver Gruber, l'instituteur du village et organiste de talent. Dans sa modeste maison éclairée par une lampe à huile, Gruber a écouté attentivement les paroles du poème. Inspiré par leur simplicité et leur puissance, il s'est aussitôt mis au travail. Les deux hommes, malgré le peu de temps dont ils disposaient, ont uni leurs efforts, portés par leur foi et leur amitié. Ils ont ainsi créé une mélodie douce et apaisante, parfaitement adaptée à une guitare. Lorsque l'heure de la messe de minuit est arrivée, les villageois, emmitouflés dans leurs manteaux épais, se sont pressés dans l'église. La nef, décorée de branches de sapin et éclairée par des chandelles, dégageait une atmosphère chaleureuse malgré le froid mordant. Les fidèles ne savaient pas encore qu'ils allaient assister à un moment qui allait entrer dans l'histoire. Devant l'autel, Joseph Mort a pris sa guitare. À ses côtés, Franz Gruber a commencé à chanter. Et ensemble, ils ont interprété pour la première fois Stille Nacht, c'est ça. La mélodie, à la fois simple et envoûtante, a semblé suspendre le temps. Les paroles, décrivant la paix de la nuit sacrée et la lumière divine, tiens, on parlait de lumière ce matin, ont touché les cœurs. Les fidèles, émus, se sont joints au chant. Et l'église, bien qu'orpheline de son orgue, a résonné d'une harmonie inattendue. Ce chant, qui était resté local pendant quelques années, mais le destin de ce chant a changé grâce à un réparateur d'orgue appelé Karl Mauracher, qui est venu visiter l'église peu de temps après. Et fasciné par la beauté de la composition, il l'a partagée dans la région du Tyrol. Et de là, elle s'est propagée rapidement, trouvant un écho particulier dans les cœurs de tous ceux qui l'entendaient. En 1831, ce chant a été publié pour la première fois. Et la mélodie, qui était portée par des troupes itinérantes de chants tyroliens, a traversé les frontières et est devenue célèbre dans toute l'Europe. Elle a été traduite dans des dizaines de langues, dont l'anglais, où elle a pris le titre de Silent Night. En 1863, le chant est arrivé aux États-Unis, où il est devenu un classique des fêtes de Noël. Alors, je vais vous donner une traduction assez littérale du texte, puisque dans le chant en français, le sens est gardé, mais c'est légèrement modifié. Douce nuit, sainte nuit, tout repose, c'est minuit. Seul veille le couple sacré dans l'étable où le Fils adoré dort dans une paix divine. Douce nuit, sainte nuit, des bergers reçurent l'annonce par des anges chantant en cadence. Et les collines répétaient en écho, Christ le Sauveur est là. Douce nuit, sainte nuit, Fils de Dieu, quel doux sourire rayonne d'amour sur ton visage. L'heure du salut a sonné pour nous dans la naissance de Jésus. Une certaine simplicité. Dans cette nuit du 24 décembre 1818, la nouvelle chanson de Noël a été chantée dans une totale simplicité. Pas de fioritures, pas d'orgue, puisque de toute façon, il était abîmé. Pas de micro, pas de sonorisation, puisque de toute façon, l'électricité n'avait pas encore été découverte et maîtrisée. Il n'y avait pas non plus une chorale de 300 personnes, par exemple. Il n'y avait qu'une guitare et deux chanteurs. Alors nous rentrons dans cette période de Noël, nous allons célébrer Noël dans quelques jours, quelques semaines. Noël qui rappelle la venue de Jésus sur terre. Cette naissance est un des événements les plus extraordinaires de l'histoire humaine. Et pourtant, ce qui frappe, c'est la simplicité avec laquelle Dieu a choisi de se révéler à nous à travers son Fils. Le récit de la nativité dans l'évangile de Luc nous dit « Le moment où Marie devait accoucher arriva, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'enveloppa de l'ange et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des hôtes. » À notre époque, lorsqu'on imagine un roi, nous pensons à des palais somptueux, des cortèges fastueux et une puissance qui se voit, qui est éclatante. Alors pour ceux qui auraient regardé hier la cérémonie de réouverture de Notre-Dame, vous aurez remarqué que l'arrivée des chefs d'État sur le parvis de la cathédrale était caractérisée par des énormes cortèges de voitures et un accueil très très protocolaire avec les honneurs qui est dû à chacun. Il y avait le prince de Galles, il y avait le futur président des États-Unis, il y avait le roi de Belgique, entre autres, le prince de Monaco, le grand-duc de Luxembourg, le président de l'Ukraine, le président de la République du Congo, les anciens présidents de la République française, etc., etc. Et tous ont eu droit à un accueil chaleureux, même s'il pleuvait, bien sûr. Mais Jésus, roi des rois, il est venu d'une manière complètement différente. Il est né dans un humble village de Judée, à Bethléem, dans une simple étable. Pas de richesse, pas de splendeur. Il a été couché dans une mangeoire, un endroit tout à fait ordinaire, qui était d'ailleurs réservé au bétail. Cette image, si modeste, nous montre que Dieu ne cherche surtout pas à impressionner par des apparences extérieures. Au contraire, il s'approche de nous dans notre quotidien, dans notre humanité, dans notre simplicité. Les premières personnes à recevoir l'annonce de cette naissance n'étaient pas des rois, ni des prêtres, ni des savants, c'était des bergers. C'était le texte que nous avions cette semaine, d'ailleurs, une petite parenthèse, dans les groupes de maison, le texte de la nativité, qui montrait cette annonce aux bergers. Des bergers qui sont des hommes simples, des hommes souvent méprisés, des gens qui vivaient dans les champs, à l'écart de la société. Et pourtant, ce sont à eux que les anges sont venus. Ce sont eux que les anges sont venus visiter, leur apportant la bonne nouvelle en disant « Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » Luc 2, verset 11. Alors pourquoi cette simplicité ? Pourquoi est-ce qu'il y a un tel contraste entre cette simplicité et les attentes humaines ? Ben parce que Jésus est venu pour tout le monde. Il n'est pas venu seulement pour les riches ou les puissants, mais pour les humbles, les petits, ceux qui savent qu'ils ont besoin de lui. Sa venue nous rappelle que ce n'est pas par nos mérites ou nos possessions que nous sommes acceptés par lui, mais par notre foi et notre cœur qui lui est ouvert. Noël, c'est aussi un message de paix. La naissance de Christ, c'est bien plus qu'un événement historique. C'est le symbole de la paix que Dieu souhaite offrir à l'humanité. Dès les premières annonces de cet événement, la paix est au cœur du message. Et pourtant, elle se manifeste d'une manière que personne n'aurait pu imaginer. Quand aujourd'hui on pense à la paix, nous imaginons souvent un état de calme, une absence de conflit ou un équilibre parfait. Mais la paix que Jésus apporte va bien, bien au-delà. C'est une paix profonde, une paix qui touche l'âme, une paix qui réconcilie l'humanité avec Dieu et une paix qui réconcilie les hommes entre eux. Lorsqu'on regarde un peu le contexte de sa naissance, Jésus est venu dans un monde qui était assez agité, qui était marqué par l'oppression de l'Empire romain, par l'injustice sociale, était marqué par les divisions aussi. Et le peuple d'Israël attendait un libérateur, un roi puissant qui viendrait établir un royaume de paix en triomphant sur ses ennemis. Un peu comme dans les films de super-héros. Mais Dieu, il avait un plan différent. Le message de paix, il commence avec les anges qui apparaissent aux bergers pour annoncer cette bonne nouvelle. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Ces paroles résonnent encore aujourd'hui. Elles proclament que par la naissance de Jésus, Dieu offre une paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais qui jaillit de sa présence dans nos vies. Jésus est venu pour apporter la réconciliation entre Dieu et l'humanité. Nous étions séparés de Dieu à cause de nos fautes, mais par sa venue, il a fait le premier pas pour rétablir cette relation qui était brisée. C'est une paix qui touche notre intérieur. C'est une paix qui apaise nos craintes et c'est une paix qui guérit nos blessures. Et cette paix, elle n'est pas réservée à une élite ou à un groupe particulier. Et le choix des bergers comme premier témoin en était la preuve. C'était des gens ordinaires, souvent marginalisés. Et pourtant, c'est à eux que les anges ont annoncé cette paix, une paix accessible à tous, quelle que soit notre origine, quel que soit notre statut et quelles que soient nos erreurs passées. Si l'on revient au chant « Douce nuit », l'un des moments les plus poignants de son histoire a eu lieu en 1914, lors de la Première Guerre mondiale. Pendant un célèbre cessez-le-feu de Noël, des soldats ennemis, anglais, britanniques plutôt, et allemands, fatigués des combats, ont déposé leurs armes pour partager un moment de fraternité. Dans le silence des tranchées, quelqu'un a entonné le chant « Stille Nacht ». Peu à peu, d'autres voix s'y sont jointes dans différentes langues. Et pour quelques heures, cette mélodie est devenue un pont entre des hommes qui étaient divisés par la guerre, rappelant à chacun la paix et l'espoir portés par cette nuit sacrée. Noël, c'est aussi un message qui a une portée. Nous avons parlé de lumière ce matin. Une phrase qui dit « Votre étincelle peut illuminer le monde ». C'est une phrase qu'on lit à la fin d'une publicité d'une banque autrichienne. Et cette banque autrichienne a pris en fait l'histoire du chant « Douce nuit ». Ils en ont fait une vidéo, justement, pour illustrer la genèse du chant. Votre étincelle peut illuminer le monde, c'est ce qu'ils ont écrit à la fin de la pub. Ça reste une pub. Et qu'est-ce que cette banque entend par là? Alors si vous tombez sur cette vidéo, elle est sur YouTube, vous allez comprendre assez vite. En fait, juste avant la phrase de fin, donc cette phrase-là, on voit un enchaînement de plusieurs plans de différentes époques, de différents contextes et dans différentes langues. Pour faire plus clair, ça commence avec le plan du père Joseph Mort avec son ami dans l'église avec une guitare. Ça continue avec le chant d'un Britannique à notre époque. Ça va sur la plage avec quelques personnes qui joue de la guitare et qui entonne ce chant dans une autre langue. Ça part aussi dans une petite maison en France où l'on entend le chant en français, où les gens l'écoutent à la radio, etc. etc. Un enchaînement de courtes vidéos de différentes époques, de différents contextes, en différentes langues. En fait, ils ont montré par là la portée universelle du chant. Ce chant qui était parti d'un simple duo en 1818 est en fait devenu le chant de Noël le plus traduit au monde, avec des versions dans plus de 300 langues et dialectes. Parmi ces traductions figurent des langues rares et des adaptations dans des contextes culturels très très différents. D'ailleurs, en 2011, l'UNESCO a inscrit Stille Nacht au patrimoine culturel immatériel de l'humanité, en reconnaissance de son importance culturelle et spirituelle. Et ça témoigne de son impact, durable sur l'histoire et sur les traditions de Noël. Bien au-delà de ce chant, c'est son message, en fait, qui a une portée universelle. Nous sommes aujourd'hui plus de 2000 ans après la naissance de Jésus. Naissance de Jésus, ce moment où Dieu se fait homme, ce moment est bien plus qu'un simple récit de naissance. C'est un événement dont la portée traverse le temps, traverse les frontières, traverse les cœurs. Ce message, qui est à la fois très simple et très profond, a une signification universelle qui continue de résonner encore aujourd'hui. Comme ce chant douce nuit a rayonné à travers 200 ans d'histoire, son message, lui, continue de se propager depuis plus de 2000 ans. Si aujourd'hui, Stille Nacht est bien plus qu'un simple chant de Noël, la venue de Jésus-Christ est bien plus qu'une simple naissance. Je vais conclure. Né dans l'humilité d'un petit village autrichien, le chant « Douce nuit » incarne un message universel de paix et a touché des millions de personnes à travers le monde. Dans l'humilité d'une étable, Dieu choisit de se rendre accessible à tous, révélant une paix profonde qui transcende les circonstances et une lumière qui éclaire le monde entier. Ce message d'amour et d'espérance continue de toucher les cœurs et d'unir les peuples à travers les générations. Nous arrivons dans la période de Noël, alors pour vivre pleinement ce temps, nous pouvons tirer quelques applications pratiques de ces vérités. Choisir la simplicité, par exemple. Privilégier des moments authentiques en famille ou entre amis, loin de l'agitation matérielle, puisque c'est une période où le commerce marche bien, où tout est en agitation, une agitation éphémère. Mais par exemple, partageons un repas tout simple, entre amis, en famille, mais rempli de gratitude. Recherchons la paix. Ce moment est peut-être aussi un moment où on peut en profiter pour prendre le temps de réconcilier nos relations. Un petit appel, une lettre, un pardon sincère peut apporter cette paix que Jésus est venu offrir. Restaurer peut-être des relations coupées. Enfin, pourquoi pas partager le message universel. Soyons attentifs aux besoins autour de nous. On peut avoir un acte de générosité, une visite à une personne isolée, un geste de bonté. Tout ça peut être une manière concrète de refléter l'Évangile à notre entourage. Votre étincelle peut illuminer le monde, disait la publicité. Mais on pourrait rectifier légèrement en disant « La lumière de l'Évangile, incarnée par la venue du Christ et qui se reflète en nous, peut illuminer notre famille, nos collègues, nos amis, nos connaissances, etc. etc. » En incarnant ces valeurs, nous faisons de Noël bien plus qu'une fête. Nous en faisons en fait une réponse vivante au don de Dieu pour l'humanité. Alors pour finir, et pour profiter de la sono qu'on a aujourd'hui, je vous propose d'écouter une version de ce chant, Douce Nuit, que j'ai particulièrement apprécié. Alors les paroles seront aussi projetées, donc que vous souhaitiez tout simplement écouter la musique ou entonner le chant, vous avez toute liberté.